الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني بنت الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني.
Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, le moment de votre émission « Une heure en Palestine » comme tous les mercredis sur Radio Galère 88.4. Émission animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est BDS Provence qui anime l'émission. Je suis Vincent. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet bdsprovence@orange.fr. Trois mois qu'Israël pilonne sans arrêt Gaza avec un sinistre et criminel bilan de morts civiles, essentiellement des femmes et des enfants. Les médias occidentaux, toujours prompts à montrer et nommer les otages israéliens, ne connaissent les morts gazaouis seulement en additionnant le nombre de morts, jamais une photo ou un nom, seulement des numéros. Certains invités sur les médias mainstream, silencieux jusqu'au 7 octobre, interviennent maintenant très sèchement contre la guerre du tapis de bombes menée par Israël. Nous allons vous proposer une revue de presse sonore avec un certain nombre de ces interventions qui laissent de marbre Netanyahou, mais bizarrement aussi Macron, le président d'une république qui inventa les droits de l'homme, nommé aujourd'hui les droits humains, et qui traverse cet épisode avec un en même temps funeste, parce qu'il n'y a que lui qui pour le croire, en même temps avec Israël et en même temps avec la Palestine. C'est à peu près aussi vrai que son en même temps de gauche et de droite, de son dernier gouvernement, qui vient par sa constitution de répondre à un en même temps de droite et en même temps de droite, en plus sarkozyste. Donc, après avoir envahi le nord de Gaza, l'armée israélienne a détruit immeubles d'habitation, écoles, hôpitaux, bombardé des ambulances. En interdisant toute présence de journalistes internationaux pour pouvoir massacrer en silence et ne pas hésiter à tuer une centaine de journalistes infiltrés. L'armée a conseillé aux Gazaouis de migrer vers le sud. Comment ne pas voir une continuité de la Nakba qui consisterait à pousser hors de ses frontières une population à bout de force en demandant à l'Égypte d'ouvrir sa porte ? Nous allons écouter différentes interventions des différents médias, dont le petit dernier, Le Média, qui est présent sur le canal 350 de la Freebox, et sur YouTube, qui donne des infos loin du deux poids, deux mesures, mais du cash dont la maxime serait notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde, au-delà des faits, le sens de l'actualité. Nous ouvrons ces extraits par une intervention de Michèle Siboni, militante de l'UJFP, Union juive pour la paix, diffusée par Misiane Télé. Nous écoutons Michèle Siboni.
La fin de la première intifada se passe comment ? Elle se passe par la levée de l'accord d'association commercial qui unit Israël et l'Union européenne. Et en cinq minutes... Il est scandaleux qu'on n'arrête pas Israël, comme si les États-Unis ou l'Union européenne n'avaient pas les moyens de le faire. Je vais juste rappeler un tout petit exemple. La fin de la première intifada se passe comment ? Elle se passe par la levée de l'accord d'association qui unit Israël et l'Union européenne. Et en cinq minutes, Israël s'arrête et commence la conférence de Madrid qui entraîne le processus de négociation dit de Oslo. C'est-à-dire que la perversité, ça consiste à faire croire qu'on n'a pas les moyens d'agir. Israël n'a que le pouvoir qu'on lui prête. L'Union européenne ou les États-Unis, en levant un cil, au lieu de filer 550 millions de dollars à Israël pour renforcer son soi-disant dôme d'acier, en levant un sourcil, peuvent arrêter les hostilités et ne le font pas.
Voilà, donc Michèle Siboni qui, elle... intervenait toujours de cette façon quand on lui donnait la parole. Ce qui est nouveau, c'est qu'on lui donne la parole. Donc maintenant, nous allons écouter Dominique de Villepin, ex-premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, qui, lui, est devenu extrêmement sévère sur Israël depuis le début de l'opération des bombardements.
Elle doit être digne, c'est-à-dire qu'elle doit conférer aux Palestiniens un État où ils pourront vivre, et pas un État en forme de poliopard comme aujourd'hui la Cisjordanie, un État viable, un État véritable qui pourra se construire et qui sera d'autant plus en paix.
Ça veut dire que les colonies en Cisjordanie doivent être retirées.
Eh bien, quand nous avons quitté l'Algérie, il y a 1 million de Français qui sont partis d'Algérie. Aujourd'hui, il y a 500 000 Israéliens qui colonisent la Cisjordanie, et il y en a 200 000 qui sont à Jérusalem.
Ils doivent quitter la Cisjordanie.
Eh oui, c'est l'histoire, c'est la responsabilité, c'est le prix, je vous le dis solennellement, c'est le prix de la sécurité pour Israël. Et tous ceux qui, aujourd'hui, considèrent que ce ne sera jamais suffisant, eh bien, font la politique du pire.
Voilà, donc c'était Dominique de Villepin, devenu un ardent défenseur de la création de l'État de Palestine. Nous allons écouter maintenant Sylvain Sipel, qui est un journaliste, auteur de l'État d'Israël contre les Juifs. Il intervient sur l'origine de l'antisémitisme que Netanyahou voudrait faire porter aux musulmans pour dédouaner le régime nazi.
Clair, Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. C'est le Mufti qui lui a donné l'idée. La rencontre entre le Mufti et Hitler dure 10 minutes. À part Netanyahou, personne n'était présent. Il n'y a pas d'archives de ce qu'il a pu se dire. Donc il invente. Il faut s'interroger au pourquoi Netanyahou fait ça. La Shoah est un crime qui est commis par des Européens sur d'autres Européens, sur le territoire de l'Europe. Netanyahou, aujourd'hui, veut essayer de faire croire que les fondements de l'antisémitisme qui ont mené à la Shoah ne se trouvent pas en Europe. Il se trouve dans l'islam et il se trouve en particulier chez les Palestiniens. La question, c'est pourquoi il le dit. Il le dit parce que ce qu'il faut, c'est que l'antisémitisme moderne soit l'antisémitisme musulman. Et les autres antisémites, on en fait notre affaire parce qu'on a un terrain d'entente avec eux.
Voilà, donc Sylvain Sipel met le doigt où ça fait mal quand même, hein, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement israélien qui choisisse qui sont les antisémites et qui ne sont pas des antisémites, évidemment, ça pose une vraie question. Et surtout, si on choisit les antisémites parmi la population musulmane, comme pour affaiblir, évidemment, encore la Palestine. Maintenant, nous allons écouter, alors c'est la surprise du chef, Jean Quatremer, journaliste à Libération, dans une intervention sur LCI, où lui aussi, dans un retour, il fait une comparaison entre le régime nazi et Israël.
Là, ça affaiblit totalement, mais définitivement même Israël aux yeux du reste du monde, parce que ça rappelle exactement les projets des nazis lors de leur arrivée au pouvoir en 1933. Je vous rappelle que lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, leur projet, c'était pas d'exterminer les juifs, c'était de les faire partir volontairement. Donc on a saisi leurs biens. Ensuite, il y a eu un second projet qui s'appelait le projet Madagascar. Et c'était l'idée, c'était de déporter l'ensemble des juifs vivant sur le territoire allemand et aussi dans les territoires qui seraient conquis plus tard à l'Est, vers l'île de Madagascar. Finalement, ce projet a été abandonné et l'Allemagne s'est refermée comme un piège à partir de 1940 sur les juifs allemands et les juifs de Pologne, et l'extermination a commencé. Donc, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il donnerait raison à ceux qui accusent actuellement Israël de mener un génocide à Gaza, parce que déporter de façon forcée une population, c'est un génocide. Et l'équivalence qui est établie par les plus virulents à l'égard d'Israël, entre Israël et les nazis, c'est une folie. Même que quelqu'un ait pu y penser, c'est une folie. Il faut les stopper. Parce que, de toute façon, d'un point de vue du droit international, c'est illégal. Je veux dire, c'est incroyable. Alors, il parle... Vous avez vu...
De volontaire.
Volontaire. Voilà, volontaire. Bah oui, à coup de... Si vous recevez des bombes sur la tête, au bout d'un moment, vous êtes volontaire pour partir. Ça, c'est clair.
Voilà, alors, belle surprise, parce que, personnellement, je n'aurais jamais cru que Jean Quatremer soit capable de se lâcher comme ça. C'est-à-dire que les choses sont assez facile aujourd'hui, puisqu'on assiste à ce que l'on voit à Gaza. Donc, les gens, quand même, qui ont un peu de cervelle, finissent par ouvrir les vannes et à dire ce qu'ils ont à dire. Donc, bravo à Jean Quatremer. Alors maintenant, on va écouter un enregistrement du Média, le fameux Média, la nouvelle chaîne de télévision qui est en accès libre pour ceux qui ont la Freebox sur le canal 350. Alors, ce qu'on va écouter, c'est une mise au point sur ce que le Média appelle une usine à assassinat de masse, qui a été intitulée par Israël Absora, l'Évangile. Donc, le Média rappelle tout sur ce logiciel qui sème la mort.
Les destructions colossales infligées dans la bande de Gaza font que des opinions publiques, certains États et des responsables de l'ONU accusent Israël de ripostes disproportionnées et de crimes de guerre. Le bilan est désormais de plus de 17 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza, et alors qu'Israël pousse son offensive vers le sud, on sait qu'au nord, la moitié des bâtiments ont déjà été détruits. Dans ce contexte, un important article du magazine israélien Plus 972, paru le 30 novembre, a mis la lumière sur le recours par l'armée israélienne à un programme d'intelligence artificielle pour désigner des cibles de bombardement nommé Absora, l'Évangile. L'emploi de cette technologie pourrait jouer un rôle dans la quantité inédite de destruction et de morts. Le magazine Plus 972 s'appuie notamment sur des entretiens avec 7 membres, anciens ou actuels, de la communauté du renseignement israélienne, incluant le renseignement militaire et l'armée de l'air. Outre l'enquête initiale intitulée « Une usine à assassinat de masse, comment Israël calcule ses bombardements sur Gaza », on pourra se référer à plusieurs journaux qui ont complété cet article en consultant différents experts, The Guardian, Le Monde, Le Figaro, Libération, etc.
Une usine d'assassinat de masse, c'est ainsi qu'un ancien officier du renseignement militaire israélien qualifie le ciblage automatisé que permet le système Absora, évangile en hébreu.
Le rôle croissant de ces outils technologiques dans les interventions de l'armée israélienne est documenté depuis plusieurs années. Par exemple, dans cet article du Jerusalem Post de 2021, l'année où a été expérimenté pour la première fois le programme Absora. Et dans un communiqué du 2 novembre, les forces israéliennes se vantent de l'utilisation d'Absora, un aperçu de l'usine à cible de Tsahal qui fonctionne 24 heures sur 24. La spécificité de l'article de Plus 972, c'est de l'intégrer à une réflexion plus vaste sur l'ampleur des destructions et des morts, qu'il explique par trois raisons. La nature des cibles visées, le grand nombre de cibles visées grâce à cette intelligence artificielle et l'autorisation d'augmenter le nombre de victimes collatérales. L'article distingue quatre types de cibles. En plus des cibles tactiques classiques, par exemple des lieux de tir de mortiers ou de roquettes, Tsahal frappe des cibles souterraines, ce qui suppose de détruire les bâtiments en surface. Auxquels il faut ajouter les lieux d'habitation privés de membres du Hamas ou du djihad islamique. C'est là qu'interviendrait beaucoup le logiciel Absora.
L'armée israélienne affirme cibler des membres du Hamas à Gaza, et pour y parvenir, elle utilise l'intelligence artificielle. Un logiciel en particulier, Gospel, suggère les cibles pertinentes pour une attaque, après avoir collecté toutes les données de renseignement disponibles.
Et enfin les cibles dites « power targets », cibles de pouvoir. Bâtiments publics, immeubles, universités, banques, qui n'ont pas de fonction militaire à proprement parler, mais dont la destruction devrait affaiblir les capacités globales du Hamas et aussi provoquer un choc dans les populations. Ces power targets ont représenté la moitié des bombardements dans les 5 premiers jours. Le concept est né en 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice, et un rapport d'Amnesty International conclut alors bien à l'existence de destructions intentionnelles sans justification militaire. On est donc au-delà de simples dommages collatéraux. Le programme d'assistance au ciblage Absora, lui, est présenté par un ancien officier du renseignement israélien comme une usine à assassinat de masse, mettant la priorité sur la quantité plutôt que la qualité. L'outil suggère les cibles les plus pertinentes pour une attaque en fonction d'objectifs stratégiques. L'opérateur humain décide ou non de suivre ses recommandations. L'objectif d'Apsora est d'agréger des masses de données dites hétérogènes, pouvant provenir à la fois du renseignement humain, spatial, de captation de conversations téléphoniques, ou de simples observations visuelles. Trier ces données aurait nécessité des dizaines de milliers d'opérateurs humains. D'après le magazine Plus 972, ces solutions technologiques expliquent comment l'armée israélienne a pu traiter ce nombre colossal de cibles à un rythme aussi effréné. The Guardian compare les 15 000 cibles durant les seuls 35 premiers jours de bombardement aux 6 000 cibles en 51 jours en 2014. Le logiciel semble très utilisé pour désigner des cibles du type lieu de résidence de cadres du Hamas. Il s'agirait surtout de cadres juniors, de cadres subalternes, car les plus hauts cadres disparaissent dans les souterrains dès le début des opérations. On ne dispose pas de données globales sur la part de ces attaques de lieux de résidence, mais un rapport de l'ONU de 2015 avait identifié l'émergence de cette nouvelle pratique, qui tue des familles entières. Amnesty International rapporte même un cas où le militant du Hamas n'était même pas présent au moment du bombardement qui tua 40 personnes. Les sources indiquent au magazine 972 que le logiciel associe chaque cible à un score probable de dommages collatéraux, par exemple la famille du membre du Hamas visé. C'est au commandement qu'il revient de définir le seuil acceptable pour déclencher l'opération. Or, selon une source, depuis le 7 octobre, le nombre de morts civiles jugées acceptables par le commandement israélien afin d'atteindre un haut dirigeant du Hamas serait passé de dizaines à des centaines.
Quand on veut tuer un milicien du Hamas, je vais le résumer de manière très simple. Soit on utilise un missile Hellfire, on va faire 2 ou 3 morts, on va faire 4 ou 5 blessés, on va faire exploser la bagnole du type. Soit on utilise une bombe de 250 kg, qui est le choix de Tzal actuellement, et là on sait qu'on va faire entre 20 et 30 morts et qu'on va détruire tout ce qu'il y a dans un rayon de 30 mètres. Donc c'est bien un choix qui a été fait délibérément d'une réponse disproportionnée.
On ne connaît pas les paramètres de l'algorithme, ni la manière précise dont il s'intègre dans le cycle de ciblage. Donc difficile de dire si on a affaire à un tournant dans l'art de la guerre. Mais on a quand même un certain nombre de problèmes éthiques et juridiques qui se posent. Dans le droit des conflits, tuer des civils est autorisé, à condition que ce ne soit pas intentionnel. Et les pertes civiles accidentelles engendrées par l'élimination d'une cible militaire ne doivent pas être excessives. Or, ici, on sort du concept de perte accidentelle, puisque le logiciel fournit une estimation du nombre de pertes civiles causées par l'élimination d'une cible militaire. Le commandement lance donc l'opération sciemment.
Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave qu'elle soit tuée, que c'était un prix qui valait la peine d'être payé pour frapper une cible. Nous ne sommes pas le Hamas. Ce ne sont pas des missiles aléatoires. Tout est intentionnel. Nous savons exactement combien de dommages collatéraux il y a dans chaque maison.
On est donc sérieusement en train de brouiller la frontière entre conséquences visées intentionnellement et conséquences prévues mais non recherché. Tous ces éléments mis bout à bout, les power targets, l'intelligence artificielle, l'autorisation d'augmenter les dommages collatéraux, plaident en faveur de l'idée qu'à Gaza, Israël est en train d'appliquer une stratégie de riposte disproportionnée, pour reprendre l'expression forgée par le chercheur Sami Cohen en 2009.
C'est « allez-y les gars, vous avez carte blanche, on n'est plus sur des cibles précises ». Non. Tant pis s'il y a des victimes civiles. Il faut que l'ennemi sache qu'il ne peut pas s'en prendre à nous de cette façon-là.
Certains finissent même par considérer qu'une partie de ces destructions ou pertes civiles est recherchée. Par exemple, les experts qui pensent que l'intervention d'Israël est inspirée par cette stratégie non officielle appelée « doctrine d'Aïa », qui prône la disproportion dans les représailles contre les zones civiles où opère le Hamas. À la fois pour que le coût des dégâts empêche la reconstitution de forces militaires, pour dissuader de mener de nouvelles attaques, et pour essayer de pousser la population à se retourner contre le Hamas. Autrement dit, certains dommages collatéraux sont donc non seulement parfaitement prévus, puisqu'il n'y a pas d'incertitude, mais aussi, peut-être, rentrent dans un schéma délibéré.
Voilà, on va faire la pause musicale et... HK va nous chanter quelque chose écrit par Rifat Alarir. Ce poète, Alarir Rifat. Alors, nous allons écouter un poème de Rifat Alarir, qui est un poète qui était plutôt, est professeur de littérature à Gaza, qui a été tué le 6 décembre dernier par un bombardement de l'armée israélienne. Il a été tué avec son frère, sa sœur et ses enfants. Voilà, donc on écoute Ashka nous chanter ou nous psalmodier le texte de Rifat al-Akhir.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire. Pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza.
De cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant, inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre,
il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort devienne une histoire,
que ma mort devienne une histoire.
Maintenant, un enregistrement intitulé « La fin de l'impunité d'Israël », enregistré par Nadia Lazouni, qui accueille sur le média, en visioconférence, Maître Gilles Devers, l'éminent avocat qui rend compte d'une plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale, émanation des Nations Unies. Donc voilà, vous allez entendre Gilles Devers nous expliquer avec moult détails comment ce pool d'avocats s'est allié à l'Afrique du Sud pour porter plainte devant la Cour de justice.
Maître Gilles de Vert, avant d'évoquer la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice, j'aimerais savoir où en est votre plainte. Est-ce que la procédure avance comme vous le souhaitez ?
Mais la procédure, elle avance pas mal, surtout au rythme des juridictions et d'une juridiction internationale en particulier, vu qu'on est plutôt sur des rythmes lents. Ce qui se passe actuellement, c'est que, à l'inverse des autres procureurs, celui qui est en place a mis en œuvre une équipe qui travaille en urgence sur le dossier, c'est-à-dire qu'elle travaille maintenant. Alors, il y a beaucoup de critiques contre le procureur. Bon, ça, c'est très facile à faire et c'est pas trop mon problème. Mais je constate que les deux autres, quand il y avait des opérations militaires de ce type-là, ils ne faisaient rien. Ils attendaient que le Conseil des droits de l'homme, qui est donc une subdivision en quelque sorte de l'Assemblée générale de l'ONU, qui siège à Genève, désigne une mission d'enquête. Et on attendait 18 mois ou 2 ans pour avoir cette mission d'enquête. Et on arrivait à la Cour 3 ans plus tard où le procureur disait « j'ai pas envie de faire grand-chose ». Donc là, moi, je vois que les choses sont pas les mêmes, vu qu'il y a 3 personnes très compétentes qui travaillent sur le dossier. Et surtout, si elles travaillent sur le dossier, c'est que il y a une mesure à prendre. Donc, s'il s'agissait simplement d'enquêter sur le génocide, on le ferait pas en urgence parce qu'il faudra bien aller sur place, faire des vérifications, entendre beaucoup de gens et ça va prendre du temps. Si une équipe travaille en urgence maintenant, c'est parce que on évoque des mesures à prendre. Et ces mesures, c'est quoi? Eh bien, ce sont les mandats d'arrêt que nous avons demandé dans notre plainte du 9 novembre, c'est-à-dire mandat d'arrêt contre Netanyahou, contre le ministre de la Justice et contre le responsable des forces militaires, voilà. Donc, actuellement, il travaille. On a eu 2 réunions. On est en train de préparer un dossier qui est un dossier de preuve. Actuellement, on ne peut pas se rendre sur place. Et vous avez un argument qui est opposé, qui est de dire on attendra pour l'enquête parce qu'on ne peut pas se rendre sur place. Donc, avec tous les avocats, on est en train de fouiller systématiquement tous les rapports de l'ONU, et l'ONU est une très grande organisation, que là aussi c'est facile de critiquer, l'ONU ne fait rien, en pratique elle travaille beaucoup, il y a beaucoup d'organismes qui sont présents sur place, et en allant sur les sites de ces organes incontestables, on arrive à refaire une chronologie jour après jour des victimes, c'est tout à fait impressionnant, mais également des attaques contre les hôpitaux, attaques contre les structures et le personnel de l'UNRWA, vous savez qui est la structure particulière pour les réfugiés palestiniens, la gestion de l'électricité pratiquement au jour le jour, la gestion de l'eau également, les transferts forcés de population, l'impossibilité de faire venir les aides alimentaires, enfin voilà le travail que l'on fait. Pourquoi ? Parce que en bout de course, la justice, évidemment, il faut une procédure, il faut trouver une juridiction. Il y a des problèmes juridiques de fond à traiter. On en parlera pour la procédure engagée par l'Afrique du Sud. Mais il faut surtout des preuves. Et le sentiment d'avoir raison, la conviction sont des choses, mais il faut les preuves. Donc, actuellement, on avance sur ce travail de preuves. Et pour dire, par exemple, pour ce qui est des hôpitaux, moi-même, j'ai été très surpris du résultat de notre étude parce que on avait le sentiment de 2 ou 3 hôpitaux qui avaient attaqué, dont un qui avait été contesté. Or, on a trouvé 248 incidences sur les hôpitaux, c'est-à-dire des notes qui venaient des services de l'ONU, et avec des attaques, à peu près 185 attaques sur les hôpitaux, il n'y en a qu'une qui a été contestée par Israël. Donc, on a quand même un élément probatoire très, très important. Et quand vous avez attaqué 184 hôpitaux ou cliniques ou ambulances ou personnel de soins ou personnel de secours, c'est difficile de dire que c'est uniquement le hasard et qu'on est en train de lutter contre les terroristes, quoi. Donc, il y a un crime de guerre particulier qui est le fait d'attaquer des personnels civils qui sont sur des missions de santé. Eh bien, voilà un crime. Ce crime, il est largement endossé par le ministre de la Défense, le responsable des affaires militaires et le premier ministre qui se veut le grand commandement de tout. Et je pense que sur un terrain tel que celui-là, on a de quoi faire un mandat d'arrêt juste pour crime de guerre. Après, tous les crimes de guerre regroupés arrivent petit à petit à cette notion de génocide. Le génocide est plus difficile à accrocher, je dirais, surtout au niveau de cette procédure urgente qui nous permet d'avoir les mandats d'arrêt. Mais il y a un précédent jugé pour le président Béchir. Donc, c'est pas impossible. Voilà. En tout cas, on travaille déjà sur le volet crime de guerre qui est plus isolé. Et puis, on verra pour le regroupement. Mais c'est là qu'on fait le lien avec les 2 procédures parce que si la Cour internationale de justice, que je souhaite, rend une ordonnance d'ici la fin janvier en reconnaissant une présomption de génocide, évidemment que ça nous fait faire un bond en avant et qu'il deviendrait beaucoup plus difficile pour le procureur de dire qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe.
Oui, voilà, cette plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pourrait venir renforcer la vôtre. On y reviendra. J'aimerais aborder maintenant cette requête adressée à Mrs. Sather Waite, hein, qui est rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats sur la situation en Palestine. Vous êtes à l'initiative de cette requête qui a été adressée hier à cette rapporteure. 190 avocats français francophones ont également signé cette requête. Quels sont les éléments que vous lui avez rapportés et que vise cette saisine ?
C'est une initiative sur laquelle nous avons particulièrement travaillé avec ma consœur et amie Claire Grandin, qui est avocate au barreau de Paris. Et au début, c'était venu parce qu'on a vu ce palais de justice, un très grand palais de justice qui a été construit à Gaza, un vrai palais de justice, qui était d'ailleurs un très beau bâtiment, financé par le Qatar, et qui était le palais de justice pour 2,3 millions de personnes, en sachant que, contrairement à toutes les idées reçues, il y a à Gaza, c'est certainement pour la population une des proportions les plus faibles de détenus. Il y a très peu de détenus à Gaza. C'est une société qui était équilibrée, contrairement à tous les fantasmes. Et ce palais de justice, il n'a pas été bombardé, il a été miné et détruit, alors que les soldats étaient autour. Donc on a déjà des photos où ils font la pose devant le palais de justice et ensuite ils le font exploser, réduire en poussière. Et donc les avocats, quelques-uns, avaient eu quand même comme un cri de colère et étaient venus manifester devant le palais de justice en disant « Attendez, on détruit, on en est où pour détruire les palais de justice ?» Et évidemment, on se dit que comme on est avocat, on ne va pas en rester à une manifestation. Notre métier, c'est de rédiger des actes. Et donc, on a effectivement rédigé cette requête au rapporteur spécial de l'ONU chargé de l'indépendance de la justice et de la protection des personnels de justice, vu que dans la même logique, nous faisons le lien avec la destruction de la maison des avocats et donc de ses archives, et l'attaque du Parlement, vu qu'il y a un Parlement à Gaza, qui est le Conseil national législatif, où les soldats sont à l'intérieur en train d'humilier cette représentation. Pourquoi ? Parce que s'attaquer non pas simplement au symbole comme un drapeau, mais au bâtiment qui représente la justice, c'est dire aux Palestiniens: mais vous allez quand même pas, vous êtes des Palestiniens, vous allez quand même pas demander à aller en justice. Mais depuis quand les animaux, ils ont des tribunaux? Voilà quel est le message. C'est-à-dire que la destruction de ce bâtiment, elle est en lien direct avec cette idée de destruction du peuple. C'est-à-dire qu'on leur dénie l'idée du droit. Voilà. Mais vous n'existez pas. Enfin, franchement, quand même. Voilà. Donc, et il fallait faire une démarche, et cette démarche, elle est très forte. Vous avez vu le nombre d'avocats qui se sont manifestés. Elle s'adresse à ce rapporteur spécial qui fait un travail de fond et qui prendra en compte cette démarche, qui verra ensuite la manière dont le traité. Et cela se retrouvera évidemment dans tous les travaux du rapporteur spécial, qui a déjà pris position lui-même sur la question du génocide. Mais c'est également une grosse piqûre de rappel au barreau français pour lui dire: mais est-ce que les amis, vous vous réveillez ou non? Mais qu'est-ce que vous voyez un palais de justice qui est réduit en cendres, et il n'y a pas trois minutes pour écrire un communiqué, même de deux pages, en disant qu'on ne fait pas exploser les palais de justice?
Et une soixantaine d'avocats.
Est-ce qu'il y a un tel aveuglement pour que les avocats qui sont des spécialistes du droit, qui connaissent qu'est-ce que c'est que la justice, ne réagissent pas à la destruction d'un palais de justice, à la destruction de la maison des avocats, à l'attaque d'un parlement? Allons. Donc, on est quand même attiré, je dois dire, par ce silence, en particulier du Conseil national des barreaux, qui devrait ouvrir les yeux. Alors, là encore, la Cour internationale de justice va être utile parce qu'elle va peut-être le rouvrir et aider à ouvrir les yeux. Mais cette focalisation sur cette diabolisation du Hamas et des actes du 7 octobre, dont juridiquement une très grande part laisse à prouver, à investiguer, à en cerner les responsabilités, ne peut en aucun cas justifier le silence sur un acte aussi grave que la destruction de ce qui représente la loi dans une terre souveraine, vu que je rappelle que Gaza, contrairement aux fantasmes, est une terre palestinienne qui restera toujours palestinienne, qui qui relève de la souveraineté palestinienne et que Israël n'a jamais été que puissance militaire occupante, puissance militaire destructrice dans les jours actuels. Donc on appelle à la communauté internationale pour dire voyez où ils en sont en détruisant les palais de justice, mais on en appelle aussi à notre profession en disant mais rebranchez le cerveau.
Alors, on va parler de cette plainte. Le 29 décembre dernier, l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Pretoria demande au juge d'ordonner à l'État hébreu de cesser ses opérations à Gaza. Et l'Afrique du Sud, comme vous, considère que le caractère génocidaire doit être retenu. Donc, c'est plutôt pour vous, cette plainte, une bonne nouvelle. Et elle s'inscrit même dans ce processus, finalement, de fin d'impunité d'Israël.
Exactement. C'est-à-dire qu'on va bien voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Un avocat, il fait preuve de conviction et il a de la langue. Autrement, on ne ferait rien. Surtout qu'au départ, l'équation n'était quand même pas très simple. Donc, on va tout à fait attendre et respecter ce que sera le délibéré des juges qui diront des choses. Mais, et on verra également ce qui se passera ensuite à la CPI, on verra ce qui se passera devant d'autres tribunaux. Mais ce qu'on peut dire à ce jour, c'est qu'on est rentré dans le processus nouveau et que ce processus, c'est la fin de l'impunité. C'est-à-dire que de 1948 à 2024, c'est l'impunité organisée, notamment parce que celui qui disait le droit, c'était le Conseil de sécurité qui est dominé par les puissances. Et là, on a réussi, et progressivement, c'est jamais que 18 ans de travail, mais de travail très divers, hein, dans beaucoup d'horizons, à passer du contrôle politique des textes à un contrôle juridique. C'est-à-dire que les textes restent les mêmes, pratiquement. C'est les conventions de Genève, ce sont les règles fondamentales de ce qu'on appelait auparavant le droit de la guerre, et qu'on appelle maintenant le droit international humanitaire. Les règles sont les mêmes. Ce qui change, c'est le procédé de sanction. Vous avez un massacre qui est très connu dans l'histoire palestinienne, c'est celui de Sabra et Shatila au Liban, Liban qu'on voit bien en difficulté ces jours-ci, qui impliquait Sharon, qui avait donné ordre à des milices libanaises d'aller massacrer les Palestiniens. Donc c'était du massacre d'homme à homme, de maison à maison, avec des corps éventrés devant les familles, enfin des horreurs absolument abominable, terroriste pour le coup, couverte par l'armée israélienne qui assurait la sécurité pendant que les massacres avaient lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque ? Ben rien. Il y a eu une espèce de commission ministérielle qui avait sorti Sharon de Premier ministre, à la suite de laquelle Sharon était sorti Premier ministre, puis on l'avait réinscrit ensuite comme conseiller, donc il faisait la même chose. Il n'y avait pas de tribunaux, on ne pouvait pas les saisir. Et là maintenant, on entre dans un jeu où les tribunaux existent. Donc la justice internationale, je la vois très critiquée. Moi, je vois qu'elle est très efficace. Et c'est justement parce qu'elle est efficace qu'elle est critiquée. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne comprennent pas et qui voudraient que ça aille plus vite. Ça, c'est une chose. Mais il y a tout un discours de discrédit qui est entretenu par les États-Unis, qui est entretenu par Israël, qui est entretenu par un certain lobby occidental, on va dire, qui dit « mais allez pas vous perdre votre temps devant les tribunaux, ça ne sert à rien ». C'est-à-dire que je suis le salarié, j'ai été viré. J'ai un licenciement vraiment pourri qui m'a frappé. Bah, on me dit, écoute, tu vas quand même pas aller devant le conseil de prud'homme, ça se fait pas. Fais donc une pièce de théâtre, écris un poème et ça sera beaucoup plus intéressant. Ça va parler à la population. Donc non, il y a du droit. Le droit, il est là pour être appliqué et ça s'applique devant les tribunaux. Donc 2024 démarre avec une audience qui concerne Israël. Israël est convoqué devant le tribunal, c'est la première fois, ou presque. Il y a eu le précédent de 2004 sur le mur, mais sur une action de guerre comme cela, c'est la première fois. Et ben, il se présente, voilà. Et on aura une décision. Donc la requête de l'Afrique du Sud, elle est récente, vu qu'elle est de la fin décembre, des derniers jours de décembre. L'audience, elle est déjà fixée, 11 et 12, et on aura une première décision, vraisemblablement, autour d'une dizaine de jours plus tard. Hein, c'est ce qui a été fait dans d'autres procédures. Donc, dans un délai rapide. Ouais, alors, dans un délai aussi rapide, les juges ne tranchent pas le fond de l'affaire. Oui, voilà. Le fond de l'affaire sera jugé plus tard. Mais c'est une procédure urgente où le juge il doit répondre à deux questions. Mm-hmm. La première question, c'est est-ce qu'il y a des éléments suffisamment probants pour penser qu'un génocide est peut-être en train d'avoir lieu. Voilà. Est-ce que vous avez la conviction qu'il y a un génocide? Et deuxième question qui est liée, avec suffisamment de preuves pour vous amener à demander des mesures urgentes.
Voilà. Donc les fameuses mesures conservatoires.
C'est-à-dire que la preuve, c'est une preuve pour justifier les mesures urgentes. Et donc les mesures urgentes qui ont été demandées par l'Afrique du Sud et qui sont excellentes, ben, c'est l'arrêt des bombardements, c'est le rétablissement de l'eau et de l'électricité, c'est le rétablissement de l'accès aux soins et donc l'arrêt du bombardement et des attaques des hôpitaux, et c'est l'arrivée de l'aide alimentaire à la charge d'Israël, qui est la puissance militaire occupante, avec un régime important qui serait de 500 camions par jour, comme ça se faisait auparavant.
D'accord,
donc ce qui est en jeu ces audiences sur le plan juridique, mais le plan diplomatique nous intéressera aussi.
Donc ce sont les mesures urgentes là, que vous citez, donc ce sont les fameuses mesures conservatoires que l'Afrique du Sud a demandé donc à la Cour internationale de justice d'examiner. Donc l'audience publique se tiendra le 11 et le 12 janvier prochain à La Haye. Donc à l'issue de ces audiences, les juges donc pourraient donner droit à ces mesures, et comment concrètement, quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre justement pour demander à Israël de cesser ces opérations-là, de rétablir l'eau. Quels sont leurs pouvoirs?
Oui, ça c'est le problème de l'exécution des décisions de justice.
Oui.
Et c'est une règle générale en droit interne comme en droit international que le juge ne s'occupe pas lui-même de l'exécution du jugement. Je reviens à l'exemple du prud'homme. L'employeur a été condamné à payer 20 000 euros de dommages au salarié. Si le salarié ne les réclame pas, ça en reste là. Le juge ne s'occupe pas de l'exécution. Par contre, le juge, il dit des choses d'abord. Donc, on a besoin dans la société que les textes fondamentaux soient respectés. On a besoin dans la société de savoir si les droits fondamentaux et si les textes qui fondent la paix sont respectés. La Cour internationale va le dire. Donc, le premier enseignement, ça va être de lire l'ordonnance. Et est-ce que l'ordonnance dit qu'il y a, oui ou non, les éléments d'un génocide? Vous comprenez bien que c'est un tremblement de terre pour la puissance occupante qui se prépare. Voilà. Et c'est en ce sens qu'on a poussé tant que l'on pouvait pour que cette procédure puisse se tenir. La deuxième chose est que des mesures conservatoires sont prises. On voit bien comment les choses se passent dans la surenchère de l'extrême droite radicalisée qui dirige Israël actuel. Ils vont dire que c'est une décision antisémite qui nie aux Israéliens la possibilité de vivre, aux Juifs de vivre sur leur terre, etc. Tout ça, c'est écrit à l'avance. Mais par contre, il y aura tout de suite une chose qui va venir, c'est celui des complices, des associés, des alliés. Je pense en particulier à la France et à l'Allemagne. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes après les États-Unis. Évidemment qu'on va aller s'occuper du cas allemand qui ne pourra plus, après cette décision de justice, livrer des armes qui vont servir à un génocide. Donc j'annonce déjà tranquillement qu'avec nos amis allemands, nous préparons non pas nos armes frappantes, mais nous préparons nos armes juridiques qui sont pacifiques, mais qui sont très efficaces pour bloquer les exportations d'armes allemandes vers l'État d'Israël. Et il y aura d'autres mesures de ce type-là, donc il y aura bien une efficacité. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que le procès, on n'arrête pas un criminel par un jugement. Et en droit international, quand il y a un État avec cette puissance derrière, c'est encore plus difficile. Mais le procès se poursuit après les mesures urgentes. Après les mesures urgentes, il y a le fond, l'examen du fond. Et la procédure qui a été engagée va être notifiée à tous les États signataires de la Convention sur le génocide, la prévention et la sanction du génocide. Donc ça fait 140 États qui vont recevoir un mot du greffe en leur disant « voilà une procédure, toute personne qui a un différend d'interprétation, qui veut participer à ce différend d'interprétation, peut s'exprimer ». Voilà, tout État, pardon. Et il y a des précédents, vu que quand c'était pour les Rohingyas, il y a eu une vingtaine d'États qui sont intervenus. Quand c'était Russie-Ukraine, il y a eu plus de 30 États qui sont intervenus. Alors, du côté des alliés de la Palestine, ça se mobilise déjà. La Tunisie, la Jordanie, le Nicaragua, la Bolivie, le Yémen, enfin d'autres, des États ont déjà dit « oui, on le fera certainement le moment venu ». Mais la question se pose également pour les alliés. Parce que regardez le cas de figure L'ordonnance dit qu'il y a bien des éléments laissant penser à un génocide à tel point qu'il faut programmer des mesures urgentes. Qu'est-ce que va faire la France ? Elle peut dire « je ne m'intéresse pas à ce litige », mais pourquoi dans ce cas elle est intervenue quand il s'agissait des Rohingyas qui sont en Birmanie, au Myanmar, ou pourquoi elle est intervenue dans Russie et Ukraine ? Là, c'est son allié, Israël. La Cour de la Haye, elle est à 2 heures de train de Paris, et le crime de génocide, il est au-dessus de tous les crimes. Donc, un dossier comme cela, vous n'avez rien à dire, d'autant plus qu'on va ressortir, vu qu'on l'a bien mis de côté, le mémoire que la France avait co-signé avec le Canada et l'Allemagne dans l'affaire des Rohingyas, en expliquant tout ce que c'est que le génocide par la privation de l'eau, de l'électricité, le mauvais sort pour les enfants, les expulsions de maisons, les transferts de population. Nous, on le reprendra, le mémoire de la France, en disant « t'as juste à enlever Myanmar et puis tu mets Israël à la place, vous comprenez, voilà ». Donc, il va falloir que la France intervienne dans le procès. Et si elle intervient, eh bien, il faudra là aussi qu'elle fasse le choix. Soit elle est dans le choix de son allié, mais à ce moment-là, elle prend le risque de perdre un procès sur le génocide. Qu'est-ce qui resterait de la diplomatie française ? Soit alors elle prend ses distances. Et ça va être le cas pour tous les pays. Donc, cette procédure Afrique du Sud, lancée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël, ouvre effectivement un champ juridique complet dans lequel on va parler d'une application effective du droit avec des effets marqués des décisions qui viennent et qui respectent le jeu qui est celui de la diplomatie de la vie internationale avec des États souverains qu'on ne condamne pas comme des petits voyous. C'est plus compliqué que ça, mais c'est d'une particulière efficacité. Les débats sont devant nous et on peut dire que l'année 2024 marque effectivement cet État d'Israël qui va se retrouver dans les filets de la justice. Alors, ils disent, et la France dit, et les États-Unis, mais tout ce qu'ils font, c'est parfait parce qu'ils luttent contre le terrorisme. Très bien, mais maintenant venez l'expliquer devant les juges, les amis, tout simplement. Allons, c'est si simple, vu que c'est si simple, vu qu'on ne peut même pas en parler en France, mais allez-y devant la Cour. Et puis vous verrez comment vous allez vous expliquer, alors que le terrorisme n'est pas reconnu par le statut de la Cour pénale internationale, par exemple. Et le même débat sur la légitime défense qui permet de tout faire, on verra ce qu'il en est. On se donne rendez-vous dans les jours qui suivent, quand la Cour internationale de justice se prononce. Moi, je donne ma théorie, parce que mon analyse, elle est très très partagée chez les juristes, je dirais, qui travaillent, et c'est les juristes qui travaillent, ils travaillent avec la jurisprudence. Ils ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur, ils font pas ils travaillent avec la jurisprudence. Et la jurisprudence, elle dit que la légitime défense, c'est quand vous êtes dans une position passive, régulière, et donc vous êtes attaqué. Donc là, il y a légitime défense. Mais Israël, comment se fait-il qu'Israël soit en contrôlant Gaza ? Parce que les puissances militaires occupantes, depuis 1967, et les puissances colonisatrices, depuis cette période-là. Et donc, la guerre de 1967, tout le monde sait que c'était un acte illicite, vu qu'ils avaient inventé à l'époque le concept de guerre préventive, qu'on n'a jamais connu nulle part, qui n'a aucun statut international. Eh bien, tout se paye. En 2024, on fera juger que 1967 et cette notion de guerre préventive, elle était illicite, elle n'a pas de fondement légal, c'était une guerre d'agression. Et quand vous êtes la puissance agressante et qu'en plus vous profitez de votre agression pour conquérir du territoire et installer votre population, vous êtes en situation d'un occupant illicite et donc vous n'avez aucun droit d'évoquer la légitime défense.
Vous l'avez rappelé, maître, la procédure sera longue, elle prendra des années avant que les juges ne se prononcent sur le fond. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a demandé à la Cour de se prononcer sur des mesures conservatoires. Dans l'hypothèse d'une condamnation, donc sur le fond, après plusieurs années, quelles sanctions pourrait prendre la Cour à l'encontre d'Israël et de ses complices ?
Ben, écoutez, d'abord, plusieurs années, on verra. Oui, il peut y avoir un grand nombre d'États qui interviennent, mais enfin, je vois que, par exemple, sur le dossier de la Russie, où il y avait une trentaine d'États, il a mis 2 ans pour statuer. Hein. Donc, c'est pratiquement le temps d'une procédure normale. Encore une fois, ce sont des juridictions qui fonctionnent mieux et on met souvent en avant des problèmes juridiques. Il y a les petits arguties, il y a les choses pour dire c'est pas sérieux, on est toujours les plaideurs de Molière. Non, on fait un travail très sérieux, vous pouvez être sûr, et les juges qui siègent là-bas sont des grands professionnels. Donc, moi, je mettrais plutôt un délai de 2 ans. Qu'est-ce que c'est que 2 ans pour la Palestine alors qu'elle est maltraitée juridiquement depuis 1917 et depuis 1948? Qu'est-ce que c'est que 2 ans? Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui vient? Ah ben, s'il vient, si c'est perdu, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Bon, donc moi, je me place dans l'hypothèse où la légitime défense n'est pas retenue et que la guerre contre le terrorisme ne permet pas de tout faire. C'est un concept du grand philosophe George Bush qui nous amène juste dans des impasses et des imbécilités et des drames. Donc, on en restera au fait qu'il y a une puissance militaire occupante et qui légitime la résistance armée et que la résistance armée doit elle-même respecter les lois de la guerre. Voilà. Donc, ça sera le débat. Si la condamnation vient, c'est l'écroulement d'une politique. C'est l'écroulement d'une politique, vu que derrière, tout va se mettre en œuvre. La CPI sera en relais et aura faire des avancées dans son jugement, et que tous les pays qui sont en situation de complicité avec l'allié qui serait condamné pour génocide feront l'objet de procédures systématiques. Et puis, est-ce que, franchement, vous pouvez imposer un rapport de force? Est-ce que vous pouvez fonder un système international en disant, malgré tout, on inclut le génocide dans les normes admissibles? Vous posez la question, vous avez la réponse. Donc, on a besoin d'une chose, cette chose, c'est le respect du principe d'égalité. Voilà, il faut revenir toujours à ça. Un Palestinien, il est égal à un Français, il est égal à un Israélien, il est égal à tout citoyen du monde. Il a les mêmes droits, et en particulier le droit de vivre sur sa terre, cette terre qu'il a historique. Les faits sont tels que la déclaration d'Alger de l'État de Palestine est pratiquement un abandon de la terre qui est reconnue aux Israéliens. Je le constate, c'est juridiquement établi et tout le monde se fixe là-dessus. Il reste donc un modeste territoire palestinien, mais il existe. Eh bien, les colonies n'ont plus rien à y faire, il faut qu'elles partent, Jérusalem doit être rendue, il doit y avoir la continuité territoriale et cet État doit vivre dans ses frontières. Et ça repose sur quoi? Sur l'égalité, c'est tout. Mais au nom de quoi est-ce qu'un État se permet de remettre en cause l'existence d'un autre peuple? On est où pour soutenir ça? Est-ce que les diplomaties occidentales se rendent compte du message qu'elles sont en train de faire passer? Outre qu'évidemment, le double standard est grotesque, mais le double standard, c'est une caricature presque, et je vais le laisser de côté. Je dis, posez-vous fondamentalement la question. Pourquoi est-ce qu'un Palestinien n'a pas le droit de vivre sur sa terre? Est-ce qu'il n'est pas égal à l'autre? Donc on se bat pour une chose, le principe d'égalité à titre individuel qui devient collectivement le droit à l'autodétermination. Ces questions, elles sont très fortes en Afrique, parce que toute l'Afrique, elle vient du droit à l'autodétermination qu'ils ont acquis le plus souvent par les armes et par des sacrifices considérables pour arriver à l'indépendance. Donc l'un des enjeux de cette procédure, c'est quoi? Eh bien, c'est que soit les droits fondamentaux, que je vais plutôt appeler les droits fondamentaux que les droits de l'homme, parce que l'expression devient presque galvaudée, mais on peut quand même bien l'utiliser dans votre bonne émission où il n'y a pas de piège à loup. Les droits fondamentaux, les droits de l'homme peuvent devenir une référence partagée entre l'Afrique, le monde arabe, et donc la planète, et l'Amérique du Sud qui soutient cette thèse, et le monde occidental. Mais il faut pour cela se mettre d'accord sur les mêmes conceptions et donc respecter qu'est-ce que dit le droit et qu'est-ce que c'est que cette convention sur le génocide. Si en revanche les puissances occidentales font le choix d'être condamnées par la justice, eh bien, on verra quoi? On verra que le centre de gravité des droits de l'homme, il bascule en Afrique. La terre des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui. À 2 jours de l'audience, je peux me tromper sur l'analyse, on verra bien, mais je dis à 2 jours de l'audience, alors qu'il y a un rendez-vous dans les filets de la justice, c'est-à-dire équitable, devant le même juge, et qui est régulier avec une bonne procédure, et qui a un débat sur le génocide, qui est-ce qui porte les droits de l'homme? C'est l'Afrique du Sud. Donc le respect à cette terre qui défend vraiment la source profonde de notre société.
L'État hébreu entend plaider non coupable et a indiqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'Israël rejette avec dégoût la diffamation. Voilà la défense d'Israël, maître. Petite réaction peut-être?
Ben oui, ils ont dit qu'ils s'en sont pris je vois quand même que même dans la démesure, il reste des degrés, parce qu'ils s'en prennent à l'Afrique du Sud en disant que c'est une diffamation sanglante, mais ils s'en prennent pas à la Cour, alors que quand c'est la Cour pénale internationale, qui dépend d'un traité, qui est indépendante du système de l'ONU, elle a d'emblée été traitée de juridiction antisémite. Donc ils viennent devant la Cour internationale de justice, ils vont déposer un argumentaire, et ils ont pris un avocat professionnel chevronné, donc il y aura un débat qui sera quand même d'un niveau autre que ce qu'on entend tous les jours sur les salades de la propagande. Mm-hmm. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, mais ce que je vois, c'est que pour assurer son impunité, Israël s'est construit des appuis, les États-Unis qui bloquent tout, écoutez, les États-Unis, défenseurs des droits, ils ont même bloqué un cessez-le-feu humanitaire. Il faut le dire et le redire. Il faudrait commencer tous les bulletins par ça, tous les journaux. Ils ont bloqué, mis un veto sur un cessez-le-feu humanitaire, alors que les enfants sont en situation de faim. C'est-à-dire que ça a été jugé par rapport à des critères, les critères de famine. Non, ils ont bloqué. Voilà, ça c'est Biden, le démocrate. Donc ça, c'est une volée. Et puis le deuxième volet, eh bien, c'est que l'acte, la pratique de cette politique de négation du droit à l'autodétermination conduit au crime. Voilà. Donc on n'est plus sur un choix politique, on est sur un choix criminel et il faut maintenant en répondre.
Oui, il est peut-être bon de rappeler que Israël n'est pas membre de la Cour internationale de justice, tout comme les États-Unis, et sera représenté donc dans le cas de cette plainte, du procès qui aura lieu par le juriste britannique Malcolm Shaw, qui est un spécialiste de droit international. Comme quoi, on peut ne pas être membre de la Cour, mais être poursuivi et inquiété par cette Cour.
Alors, attendez, j'apporte une petite précision, c'est-à-dire que Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale.
Oui.
Et on avait vu l'autre jour que ça ne bloque pas la procédure, vu que la Cour a jugé que ce qui compte, c'est que les crimes aient lieu sur le territoire palestinien. Mais à partir du moment où vous êtes membre de l'ONU, vous dépendez de la Cour internationale de justice. Donc, Israël en dépend. En revanche, ce qui se passe, c'est que certains États, sur cette convention du génocide, ont fixé une réserve en disant qu'ils ne voulaient pas la juridiction de la Cour internationale de justice. Mais à l'époque, Israël n'avait pas mis cette réserve. Donc, demain et vendredi, on va débattre, mais on ne débattra pas de la compétence, parce que la compétence de la Cour internationale de justice, elle est établie. Alors, par contre, il n'y a pas de juge israélien qui siège à la Cour, et donc la procédure veille, parce qu'elle est très équilibrée, cette procédure, à ce qu'il y ait un juge, ce qu'on appelle un juge ad hoc, c'est-à-dire un juge de l'État qui vient participer au débat. Et Israël a désigné son nom m'échappe à l'instant, qui était l'ancien président Barak, qui était l'ancien président de la Cour
Malcolm
suprême.
Malcolm
Shaw. Ouais, voilà. Et qui se trouve par ailleurs être un opposant des réformes que voulait faire Netanyahou. Bon, enfin, ils ont choisi cet homme. Bon, et l'Afrique du Sud a choisi un professeur de droit qui est un ancien militant de l'ANC, qui est passé par les tortures et qui a des choses à dire. Voilà, donc parce que l'Afrique du Sud n'est également pas représentée. Mais ils sont juste là pour compléter la juridiction. La juridiction, elle est dans sa formation. Et pour ce qui est de Monsieur Barak, on lui donne beaucoup de prestige quand on veut, parce que c'est lui qui a donné les suites de l'avis rendu par la Cour internationale de justice sur le mur en 2004. Cet avis qui sert de référence, que vous trouvez, pour ceux qui sont intéressés, il suffit d'aller sur le site de la Cour, on trouve tout, vous trouvez l'avis qui a été rendu, qui est très long, 80 pages, avec beaucoup de précisions, vous trouvez tous les mémoires qui ont été déposées, et donc qui condamnait clairement le mur, et d'ailleurs qui avait rejeté la notion de légitime défense déjà, en disant, mais vous êtes puissance militaire occupante, vous ne pouvez quand même pas invoquer la légitime défense, ça avait été jugé à l'époque. Et c'était M. Barak, ce juge, qui était président de la Cour suprême. Et au lieu d'appliquer la décision de la Cour, il s'est efforcé de trouver des arguties pour dire que la Cour avait tout faux. Ils ont réécrit le droit international comme ils le font. Par exemple, on a actuellement la question des prisonniers, c'est-à-dire des combattants qui ont été arrêtés. Il y en a 700. qui ont été arrêtés, ben, c'était des combattants, les armes à la main. Donc, ils ont le statut de prisonniers de guerre, même si c'était des combattants des groupes armés résistants. Ben, non, pas du tout. Israël a créé un statut spécial avec la loi sur les combattants illégaux, qui n'a aucune valeur en droit international, que la Cour internationale de justice a toujours dit. Que les combattants illégaux, ça n'existe pas, sauf si c'est à titre individuel. Bon, ça, c'est un fait d'arme. Mais du moment que c'est une armée organisée, groupe informel dans la résistance, eh bien, ils sont prisonniers de guerre. Ben, Israël dit non, moi, je fais ma loi particulière, et des gens comme Barak ont tout à fait légitimé cette facilité de créer un droit alternatif, moi ce que j'appellerais un droit international domestique, c'est-à-dire que je mets des petits soupçons de droit international pour parfumer une loi qui est uniquement conforme à mes intérêts, voilà. Donc les juges sont courtois, mais sur le fond, je pense pas qu'ils réservent un accueil particulièrement intéressé aux explications de Monsieur Barak, parce que au lieu d'appliquer l'arrêt de 2004, il a dit en substance que les juges de 2004 étaient bien gentils, mais qu'ils étaient incompétents et que c'était à lui de réécrire la justice internationale. Voilà où nous en sommes. Et encore une fois, je suis très heureux qu'on puisse enfin rentrer dans un processus juridique. Ça va d'ailleurs simplifier nos débats en France, parce que et dans d'autres pays, vu que dans un débat, ben il y aura le débat, et chacun gardera ses opinions, mais il y aura la part pour le droit, voilà, qui va être rappelée. Et notamment, est-ce qu'il y a une occupation militaire ou non? Est-ce qu'il y a une légitime défense ou non? Et des questions de ce type-là.
Voilà, notre revue de presse est terminée. Nous disons au revoir et au mois prochain. À bientôt. Shall I be?